psaume 4, et c'est à la page 630 dans les Bibles bleues. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous, les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Qui n'a pas vécu déjà cette situation? La journée se termine, c'est l'heure de se coucher, mais il s'est passé quelque chose de difficile pendant la journée. Peut-être que c'était une conversation tendue au travail, ou bien un malentendu avec un ami. Peut-être simplement beaucoup de pression et le sentiment d'avoir du mal à gérer tout ce qui vous arrive, tout ce qui semble venir de partout. Et donc ces sentiments se mêlent les uns aux autres et le soir arrive, vous vous retournez dans votre lit, le sommeil vous échappe. Et là, si vous êtes chrétien, vous tournez peut-être vers Dieu dans la prière pour lui demander d'intervenir dans ces situations qui vous préoccupent et vous donner sa paix. Eh bien, le psaume 4 que je viens de lire semble avoir pour contexte une situation un peu similaire. C'est une prière du soir, semble-t-il. On en a quelques indices dans le psaume. Par exemple, au verset 5, « Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Et puis, plus nettement, au verset 9, « Je me couche, et aussitôt, je m'endors en paix. » Mais avant cette conclusion pleine de paix et pleine de confiance, on voit le narrateur de ce psaume, David, passer par plusieurs émotions à la fois. Il se rappelle des situations passées, des situations présentes. Il évoque des choses difficiles, mais il trouve le réconfort dans ce qu'il sait de Dieu. Et c'est cette tension entre difficulté de la vie, difficulté de sa situation et confiance en Dieu qui va inspirer cette prière du soir. Alors on va voir dans ce texte que David prie, mais en même temps il s'adresse aussi parfois aux gens autour de lui, à ses contemporains. Mais c'est une prière, donc une prière du soir, mais qui à vrai dire est pertinente au-delà du soir pour la vie d'un point de vue général. Et je propose de relever deux éléments majeurs dans ce texte. D'abord un constat lucide et ensuite une prière confiante. En premier lieu donc un constat lucide. Alors, à en croire les commentateurs politiques, le point de non-retour qui a conduit au renoncement de François Hollande à se représenter aux dernières élections présidentielles a été la publication d'un livre d'entretien avec des journalistes, un livre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Alors, je ne vais pas faire de politique, je vous rassure, mais ce qui a été mal perçu, à tort ou à raison, par beaucoup, c'est que au-delà des petites phrases ici et là, c'est le fait que le président de la République exprimait si personnellement le fond de sa pensée sur une quantité de sujets allant de la justice au football, en passant par plein de choses. Et on considère souvent qu'un président, que d'un point de vue général, une personne en position d'autorité ne devrait pas trop exposer sur la place publique ses sentiments personnels, ses hésitations, ses volte-face, de peur que son autorité ne soit déstabilisée ou entaché. Et sans doute que c'est juste, en tout cas dans un sens, de dire cela. Mais on peut se demander ce qu'on aurait dit du roi David alors, auteur d'un très grand nombre de psaumes, non pas tous, mais beaucoup, où, à vrai dire, il se livre énormément. Il exprime, alors c'est pas à des journalistes qui parlent, c'est à Dieu, c'est quand même différent, mais il exprime très librement ses joies, son intimité spirituelle, mais aussi son mal-être, ses doutes. Et les psaumes, qui pour beaucoup d'entre eux sont des prières, sont remarquables par leur authenticité humaine. On n'est pas dans des prières convenues, on n'est pas dans du, ce qu'on pourrait appeler du blabla religieux, qui serait un peu creux, bienséant. David n'hésite pas à exprimer ce qu'il a sur le cœur. Et dans ce psaume 4, comme dans beaucoup d'autres, on voit que ces prières sont ancrées dans la réalité. Parfois, on pense que les prières, c'est une façon d'échapper à la réalité. Mais ici, comme ailleurs dans la Bible, on voit que les prières, au contraire, sont ancrées dans le réel, dans la réalité. Alors dans ce texte, quel regard est-ce que David pose sur le monde et sur les gens qui l'entourent ? Il commence par faire un constat sur les hommes eux-mêmes. Et il met l'accent en premier lieu sur l'hostilité dont il fait l'expérience. Verset 3. « Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire ?» Autrement dit, sans doute, comme le traduit par exemple la Bible en français courant, « Jusqu'à quand salirez-vous mon honneur ?» Jusqu'à quand est-ce que vous me diffamerez comme ça ? Alors ça peut paraître dur, commencer un psaume comme ça, « Et vous les hommes, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur ?» Et dans notre société attachée à la respectabilité apparente, ces paroles peuvent peut-être nous sembler excessives. Mais quand on creuse au-delà des apparences, ne doit-on pas faire le constat, aujourd'hui encore, d'un monde où chacun essaye de tirer la couverture à soi, quel qu'en soit le coût pour les autres. Derrière la courtoisie ambiante, tant mieux s'il y a de la courtoisie, mais derrière cette surface, n'y a-t-il pas très souvent entre les hommes un torrent de médisance, de préjugés, de calomnies, même parfois de perversité. Et il arrive malheureusement que les chrétiens contribuent aussi à cela. David a beau être en position d'honneur, il est roi d'Israël, il pose un regard vraiment réaliste sur le monde et les hommes autour de lui. Alors il ne s'agit pas de dire que tout est sombre et mauvais, David ne le fait pas, le reste de la Bible non plus, mais la lucidité doit nous pousser à reconnaître que le monde est souvent animé au moins autant, voire plus, par les rancœurs et les égoïsmes que par la bonté et la générosité. Donc ça, c'est un premier constat, c'est la difficulté des relations humaines et l'hostilité dans les relations humaines. Un autre constat que fait David est celui de la vanité des ambitions et des aspirations des hommes. La vanité des aspirations humaines. Deuxième partie du verset 3. « Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge ?» Là encore, ça peut nous paraître sévère à première vue. Mais n'est-ce pas tristement réaliste ? Le monde ne court-il pas quotidiennement après des choses sans valeur, superficielles, des petites gloires d'un instant qui sont vite oubliées ? Et ces choses que l'homme recherche au quotidien, donc, ne sont-elles pas souvent des choses fuyantes ? Même parfois des choses bonnes, mais qui durent un instant et qui sont vite oubliées. Ou pire, verset 3, des mensonges. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage, ou peut-être que c'est vous-même, quelqu'un qui a tout le temps des idées dans tous les sens, mais qui a beaucoup de mal à les mettre en pratique. Les idées fusent, mais on a l'impression qu'au final, on revient toujours un peu au même point de départ, jusqu'à l'idée suivante, qui aboutit une fois de plus à l'échec, et ainsi de suite. Et on finit peut-être par se demander si ces idées ne sont pas une sorte de fuite face à un vide ressenti. Eh bien, David, ici, semble faire ce constat-là un peu pour l'humanité en général. On court dans tous les sens, parfois pour de bonnes choses, mais souvent pour des choses vaines et fuyantes. Même quand c'est des choses qui sont bonnes en soi, par exemple, au verset 8, le blé et le vin, c'est des bonnes choses, eh bien même cela ne peut pas réellement donner du sens et de la joie durable, cette joie durable à laquelle les hommes aspirent. Donc là encore, David fait un constat lucide. Maintenant, ce qui est primordial ici, c'est de voir que tout cela ne pousse pas David à être accablé de découragement, mais à se tourner vers Dieu. Face à ce constat dur, décourageant à bien des égards de la réalité de la vie, David lève les yeux vers le seul qui échappe à cette réalité de la vanité humaine, qui est le Créateur, celui qui a l'origine même de la vie, le Dieu qui se révèle dans la Bible. Et c'est sans doute pour ça qu'il va prononcer cette phrase au verset 5 qui semble venir un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu hors contexte. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Pour David, le premier réflexe face aux difficultés et aux frustrations de la vie, et notamment face aux difficultés relationnelles dont il vient de parler, c'est de ne pas se laisser accabler, de ne pas se laisser emporter par le désarroi ou la colère. Parfois, il peut être légitime de se mettre en colère, c'est ce que suggère le verset 5. Par exemple, face à l'injustice, c'est normal de se mettre en colère. Mais cette colère, si on n'y fait pas attention, elle risque d'emporter tout sur son passage, elle risque de nous ronger et de nous conduire à pécher, à faire ce qui est mal, ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et donc cette colère, elle doit être remise à Dieu. Parce que Dieu pourra gérer notre colère beaucoup mieux que les gens contre qui on se met en colère. D'où cette exhortation de David à tous ceux qui veulent bien entendre son conseil, il leur dit « Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Et peut-être que certains ce soir, je ne sais pas hein, mais par quelles circonstances vous passez actuellement, mais peut-être que certains ont tout particulièrement besoin d'entendre cette parole. Cette colère, cette anxiété peut-être qui vous ronge, en tout cas qui vous anime et qui menace de vous ronger, apportez-la à Dieu. Apportez-la à Dieu. Et dire cela, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une solution de facilité non plus. Mais c'est faire le constat que Dieu est celui qui seul maîtrise ces situations qui nous échappent à nous. Donc, on a vu que nos prières, elles sont ancrées dans la réalité. Elles partent vraiment de cette réalité difficile. Ne cherche pas à y échapper. Au contraire, on la prend pleinement en compte, on l'assume et on remet cela à Dieu. Et c'est ça qui nous amène à notre deuxième temps de réflexion, une prière confiante. Alors quelques-uns ici, je pense, vont reconnaître cette anecdote, et j'ai demandé permission à la personne de la raconter, mais cette personne ne sera pas nommée. Mais un jeune homme que je connais un peu, et qui a fréquenté un temps cette église, a récemment décidé d'inviter des personnalités publiques à son mariage, original. Donc un faire-part a été envoyé à M. Macron, un autre à M. Mélenchon, etc. Alors comme on pouvait s'y attendre, la plupart n'ont pas répondu. Il y a quand même eu une réponse de la présidence de la République, avec des vœux de bonheur, mais surtout une lettre écrite à la main de M. Jean Lassalle, qui lui a dit qu'il pensait ne pas pouvoir venir, mais que si ça devait changer, il l'informerait. Et il faut reconnaître que c'est touchant de voir une telle attention personnelle, savoir qu'un mot qu'on a envoyé a été lu et a été pris en compte. Et la question se pose pour nous. Quand nous prions, est-ce que nous croyons vraiment que Dieu écoute? Alors, on ne peut pas faire plus basique comme question sur la prière. Hein. Mais il faut se la poser, cette question. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu écoute? Ou est-ce que, mine de rien, nous avons tellement pris l'habitude de pratiquer la prière comme, entre guillemets, un acte religieux, à l'église, avant les repas? C'est très bien hein, de prier à l'église et avant les repas. Mais est-ce que finalement, c'est devenu quelque chose auquel, sans s'en rendre compte, on ne croit peut-être plus tant que ça? Or, la prière n'est rien et ne veut rien dire si elle n'est pas portée par la conviction que Dieu entend et que Dieu écoute. Au début du psaume 4, David exprime sincèrement et vigoureusement son attente d'une écoute et même d'une réponse de la part de Dieu. Verset 2, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. » On a presque l'impression qu'il veut gronder Dieu, ce n'est pas le cas je pense, hein, mais « Quand je crie, réponds-moi. » Alors David, en tout cas, n'est pas ici dans une prière de convenance qui sonnerait bien mais qui serait creuse de l'intérieur. Il fait véritablement appel à Dieu. Il se confie à lui. Alors comment est-ce qu'on pourrait décrire cette prière de David? Je vous soumets quatre caractéristiques que je propose de voir dans ce texte. Je pense qu'on peut dire que la prière de David est personnelle, reconnaissante, pressante et confiante. D'abord donc, elle est personnelle. Elle s'adresse elle ne s'adresse pas à un inconnu. David, c'est pas comme une bouteille dans la mer avec un petit message et puis peut-être que quelqu'un entendra. Non, il s'adresse à quelqu'un qu'il connaît. Verset 2, « Réponds-moi, Dieu de ma justice !» C'est-à-dire le Dieu qui, par le passé, a montré qu'il veillait à la justice en faveur de David. J'y reviens tout à l'heure. Verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. » On voit combien David souligne ici sa relation personnelle, intime avec Dieu. Alors c'est vrai, quand il dit « l'Éternel s'est choisi un homme fidèle », il parle sans doute de son statut de roi choisi par Dieu pour régner sur Israël. Mais ce qu'il dit s'applique, en fait, en définitive, à tout homme ou à toute femme qui sait qu'il ou elle a été saisi un jour par la grâce et par l'amour de Dieu. David s'adresse à quelqu'un qu'il aime et qui l'aime, quelqu'un avec qui il a traversé des épreuves. Et quand on aime et qu'on se sait aimer, eh bien même dans le silence, même lorsqu'on n'a pas toutes les réponses, on va faire confiance. Parce qu'on sait qui est l'autre. Ce que pouvait écrire l'apôtre Paul dans sa toute dernière lettre à la fin de sa vie, sa deuxième lettre à Timothée, c'est la dernière lettre de l'apôtre Paul. Il est en prison, il se doute qu'il va bientôt mourir. Et il parle de son espérance, malgré ses circonstances, malgré ses souffrances et la perspective d'une mort proche. Il écrit à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru. » Et c'est ça qui lui donne confiance. Il sait en qui il a placé sa confiance, de Timothée 1,12. Et si on vient à notre psaume, au verset 8, bien David exprime à nouveau cette dimension personnelle en parlant de la joie que Dieu met dans son cœur. Donc David connaît Dieu et sa prière s'inscrit dans cette relation d'amour et de confiance. Donc la prière, elle est personnelle. Mais aussi, et de façon directement liée, c'est une prière reconnaissante. C'est frappant de voir que David commence par un cri du cœur, « Réponds-moi !» Mais tout de suite après, il se rappelle qui est ce Dieu à qui il s'adresse. Un Dieu qui est maintes fois intervenu en sa faveur. Verset 2, « Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. » Et là, je crois qu'il y a un rappel très important pour nous, nous qui sommes chrétiens, et puis pour ceux qui, j'espère, le deviendront. Aussi difficile que soient peut-être nos circonstances présentes, je ne doute pas que nous pourrions citer bien des situations où Dieu est intervenu en notre faveur, où nous avons fait l'expérience de sa grâce, l'expérience de sa bénédiction, de sa délivrance. Et parfois, c'est même au cœur de l'épreuve que nous avons fait cette expérience. Pour ma part, je sais que dans les temps de découragement spirituel que j'ai pu avoir, que je peux avoir parfois encore, c'est souvent en repensant à tout ce que Dieu a fait pour moi par le passé, toutes ces interventions que je ne peux pas nier, que je suis à nouveau encouragé. Et puis, il faut reconnaître que souvent, quand on obtient une réponse à la prière, on passe vite à autre chose, comme si, voilà, c'est tout à fait normal, on a passé beaucoup de temps à prier pour ça, on a eu la réponse et puis on a presque oublié qu'on avait demandé, on considère que c'était tout à fait normal. On pense à peine à remercier Dieu. Un peu comme un homme qui prie pour une place de stationnement, il dit « Amen », juste au moment où il dit « Amen », il voit une voiture qui se dégage, une place qui se libère, et il dit « Non, c'est bon Seigneur, j'ai rien dit, j'ai trouvé, c'est pas la peine ». C'est un peu ça. Non, la reconnaissance doit porter notre vie de prière. La reconnaissance doit porter notre vie de prière. Nous avons tendance, et moi le premier, à dissocier les prières de requête, d'intercession, comme on dit, et les prières de reconnaissance, dont on fait une catégorie à part souvent. Alors ça, c'est normal qu'il y ait parfois des prières qui soient particulièrement... qui aient une dominante de reconnaissance ou une dominante de requête. Mais il faut bien noter que la Bible ne sépare pas absolument ces deux choses. Bien au contraire, elle nous invite à adresser à Dieu des requêtes dans la reconnaissance, dans un esprit de reconnaissance, en étant conscient que le Dieu à qui on s'adresse est le Dieu qui aime donner et qui nous a tant donné déjà. Nous adressons à celui dont nous reconnaissons sa grande générosité envers nous. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul à nouveau, Philippiens 4, verset 6, lorsqu'il écrit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Ce n'est pas une méthode couée, comme on dit, pour trouver absolument « Oh là là, il va falloir que je trouve un truc positif là dans ce que je vis. » Ce n'est pas ça l'idée. Non, il s'agit d'une reconnaissance de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous déjà. Non seulement ses interventions dans nos histoires personnelles, et elles sont importantes, j'en ai parlé, mais plus encore ses interventions dans l'histoire avec un grand H, et qui nous concernent directement. Le pardon qu'il nous a offert en Jésus-Christ par sa mort sacrificielle à la croix, sa résurrection, le don de son Saint-Esprit comme garantie d'une espérance éternelle, sa décision de nous adopter comme ses enfants en nous offrant une relation personnelle et intime avec lui. Des sujets de reconnaissance, donc, aussi durs que soient nos épreuves, et je dis ça sans légèreté, je sais qu'il y a des gens, même dans cette salle, qui vivent de très dures épreuves. Des sujets de reconnaissance, nous n'en manquerons pas. Nous n'en manquerons jamais, parce que Dieu est Dieu, et que nous lui devons tout. David se trouve dans une situation difficile, Mais au moment de crier à Dieu, il se rappelle que Dieu l'a maintes fois soutenu et délivré. Et cet encouragement le conduit à prier de façon d'autant plus pressante. C'est notre troisième caractéristique. David ne prend pas de gants, il ne tourne pas sa requête dans tous les sens pour bien faire attention de formuler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien formuler les prières, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais David fait parler son cœur, il s'écrie à Dieu, « Réponds-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Et je me demande parfois si par souci de respectabilité dans notre société où tout le monde se regarde un peu et s'épie un peu, nous avons du mal, peut-être même en privé, à vraiment nous laisser aller dans la prière avec Dieu, peut-être même en privé, à vraiment exprimer le fond de notre cœur et nos requêtes. Alors peut-être que pour certains ici, vous dites « Non, ce n'est pas un problème pour moi. » Mais peut-être que pour d'autres, ça l'est. Est-ce que nous avons la liberté d'arrêter ce que nous faisons parfois, d'aller nous retirer quelques instants et de crier à Dieu, peut-être littéralement de crier ou bien de crier dans son cœur, « Réponds-moi, aie pitié de moi. » Donc la prière de David, elle est pressante et les nôtres devraient l'être aussi. On ne devrait pas avoir peur de chercher véritablement Dieu par nos prières. La Bible s'exprime souvent en ces termes. Et plus nous serons convaincus qu'il écoute vraiment, qu'il nous appelle à le prier, plus nous aurons la motivation et la persévérance pour le prier de manière pressante. Et enfin, la prière de David est confiante. Ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. David ne sait pas quand et comment Dieu va intervenir. En général, on ne sait pas comment et quand Dieu va intervenir quand on prie. Mais il sait qu'il le fera, en son temps, et de la meilleure des manières possibles. Il est confiant parce qu'il sait qui Dieu est, verset 2, verset 7. Il est confiant parce qu'il se rappelle ce que Dieu a fait pour lui, verset 2, verset 4, verset 8. Il est confiant en raison de la relation qu'il a avec lui, verset 4. Et c'est pour ça qu'il appelle ses contemporains à vivre cette même confiance. Il les exhorte, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Alors pourquoi est-ce que David était si sûr des bons projets de Dieu pour lui, malgré l'adversité, malgré les difficultés? La réponse, en partie en tout cas, est au verset 4. David sait que Dieu l'a choisi comme roi pour son peuple Israël, et au-delà l'a choisi comme membre de son peuple, comme croyant en lui. Alors, vous me direz, oui, mais moi, je ne suis pas dans cette position d'être le roi d'Israël ou le roi de quoi que ce soit d'ailleurs. Et on peut se demander, mais alors, qu'est-ce qui peut nous rendre sûr que Dieu veut notre bien et que ses projets pour nous sont bons? Eh bien, c'est le Nouveau Testament qui répond précisément et profondément à cette question. Nous pouvons avoir confiance dans les bons projets de Dieu pour nous parce que Dieu a accompli en notre faveur à la croix l'acte d'amour le plus inouï, le plus impensable qui soit. Dieu, en Jésus-Christ, a pris sur lui son propre jugement contre notre péché pour que nous n'ayons jamais à le subir. Dieu a accepté l'humiliation, la faiblesse apparente, la honte, la douleur de la croix par amour pour nous. Comment imaginer qu'aujourd'hui, il se désintéresse de ceux pour qui il est mort? Paul, lui encore, je le cite beaucoup ce soir, écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous étions des pécheurs. Il n'y avait rien en nous d'attirant pour Dieu. Et pourtant, par amour, il est mort pour nous. David priait avec confiance parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il savait que Dieu était venu le chercher, le rencontrer, et lui avait donné sa bénédiction. Mais pour nous qui vivons après la venue de Jésus-Christ, nous avons une raison encore plus ferme de prier avec confiance. C'est la croix qui est la preuve irrévocable de ce que Dieu est pour nous, à nos côtés. Et nous pouvons donc en toute confiance faire comme David et remettre notre réalité au Dieu d'éternité. Nous ne savons pas quelle forme prendront ces réponses. Parfois ça nous surprendra. Mais nous savons que notre présent et notre avenir sont entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui a prouvé son amour par Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous invites à nous adresser à toi. Et nous ne nous adressons pas à toi comme à un Dieu inconnu, dont les réactions seraient imprévisibles. Mais nous nous adressons à toi comme à un Dieu qui nous aime, qui nous a adressé des promesses suprêmement en Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier pour ce privilège. Je dois te prier pour tous ceux et celles qui ont besoin, comme moi, d'être renouvelés dans leur vie de prière, d'être encouragés dans leur vie de prière. Je te prie que tu nous donnes de voir combien il est bon, combien c'est une source de joie et de paix que de pouvoir à tout moment nous tourner vers toi, ancrer dans notre réalité, souvent complexe, difficile, que parfois nous-mêmes nous avons du mal à comprendre. Et nous pouvons entièrement te la remettre, en sachant que toi, toutes ces choses ne t'échappent pas et ne t'effraient pas. Nous te remercions pour cela, au nom de Jésus. Amen.